Donc aujourd'hui, on est dans une série de deux messages que je vais prêcher. Et le thème, c'est « On ne peut pas se passer de toi ». Et j'aime ce thème-là. Ça représente vraiment bien ce qui est dans mon cœur pour nous ce matin. Et je vais vraiment prêcher quelque chose qui brûle dans mon cœur et que j'espère va résonner dans votre cœur aussi. Vous savez, quand on prêche comme ça, on veut pas juste un auditoire qui écoute et qui apprécie, mais ce qu'on souhaite avant tout, c'est des gens qui vont répondre au message, qui vont dire « Ah, c'est pour moi, je l'applique dans ma vie, je l'intègre dans ma vie. » Et le titre du message de ce matin, c'est « C'est mon église et j'en suis fier. » C'est mon église et j'en suis fier. Et c'est le désir de mon cœur, que chacun d'entre vous, vous puissiez avoir ces propos-là, ce cœur-là de dire « Ici, là, Nouvelle Vie de Drummondville, c'est mon église. » Puis j'en suis fier. C'est vraiment ma prière ce matin. Vous savez, à travers les années, vous avez peut-être déjà fréquenté une église ou un endroit où vous n'étiez pas totalement fier ou à l'aise peut-être d'inviter quelqu'un. Vous étiez stressé peut-être d'inviter quelqu'un qui est là pour une première fois. Vous aviez peur de ce qui allait se passer, de ce que le pasteur en avant allait dire. Et on veut vous dire ce matin qu'on s'engage à faire tout notre possible pour que vous soyez fiers de votre église, que vous soyez fiers de tout ce qui prend place ici ce matin. On veut pas te faire honte, OK? Dis à ton voisin, je suis fier de mon église. Dis ça à quelqu'un à côté de toi ce matin. Pour démarrer mon message, on va parler d'un personnage dans la Bible qui est très peu connu. Si je vous dis Moïse, la main levée, vous connaissez Moïse? Lève ta main. OK, si je dis Daniel, qui connaît Daniel? Lève ta main. Qui est Paul? Qui connaît Paul? Qui est Pierre? Jean? Si tu ne lèves pas ta main à Jean, là, je ne sais pas, tu étais où pendant l'été? Hein? On a parlé de Jean, de l'évangile de Jean pendant 8-9 semaines quasiment. Mais si je vous dis ce matin, Huram Abi. Oh! Je regardais s'il y avait des menteurs dans ce lieu. Non, non, tout le monde est honnête dans ce lieu. Ah, il y a quelqu'un en arrière qui lève sa main. Bon, d'accord, on va prier pour toi après pour le péché du mensonge. Huram Abi. Qui est donc cet énergumène? Ce matin, on va le découvrir et on va apprendre quelques éléments, trois éléments qui peuvent nous inspirer pour notre service envers Dieu. Et notre texte, c'est dans 2 Chroniques, le 2e chapitre. Et c'est des textes où Salomon s'apprête à bâtir le temple. Il s'apprête à bâtir le temple, et c'était l'idée de son père David, bien sûr, et David avait rassemblé des matériaux et préparé le chemin pour que Salomon puisse bâtir un temple à l'honneur de l'Éternel, un temple qui allait être grandiose, spectaculaire. Et là, Salomon va faire une demande à un roi, un roi d'un autre royaume, parce qu'il est à la recherche d'un talent particulier. Alors, on va lire ensemble 2 Chroniques 2, verset 6. « Envoie-moi donc un homme habile pour travailler l'or, l'argent, le bronze, le fer, ainsi que les étoffes de teinte, en pourpre, en cramoisi et en bleu, et qui s'y connaissent aussi en sculpture. Il travaillera avec les artisans qui sont à ma disposition à Juda et à Jérusalem et que mon père David a choisi. » Verset 10. « Hiram, le roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon. C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur lui. Hiram ajouta, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui a fait le ciel et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent qui va construire un temple et construire un palais pour lui-même. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Huram Abi. Il est là, OK? Il est dans la Bible. C'est pas un nom inventé. Il est le fils d'une femme issue de la tribu de Dan et d'un père qui est Tyrien. Verset suivant. Il sait travailler l'or, l'argent, le bronze, le fer, la pierre et le bois, ainsi que les étoffes teintes en pourpre et en bleu, les étoffes de fin lin et de carmin. Il sait aussi réaliser toutes sortes de sculptures et élaborer tous les projets qu'on lui soumet. Il travaillera avec des artisans et avec ceux de mon Seigneur David, ton père. » Donc, il est là, il est dans la Bible, un fameux Huram Abi. Et trois éléments que j'aimerais dire à propos de lui. Premièrement, C'est un gars plutôt ordinaire à la base. Comme je l'ai dit tantôt, c'est pas un Moïse, c'est pas un grand chef, c'est pas un gars full populaire que quand il marche dans un centre d'achat, tout le monde se retourne et dit « Ah, regarde, regarde, regarde! » Avez-vous été déjà dans un lieu public où vous avez vu une vedette, hein, où vous avez vu quelqu'un qu'on voit à la télé souvent, puis là, ben moi, ça m'arrive des fois, mettons, je vois quelqu'un que je connais, une vedette, et là, si je suis avec ma femme, faut que je sois discret parce qu'elle, elle veut pas qu'on dérange les gens. Fait que je lui dis « L'as-tu vu? » Puis elle a dit « Oui, mais regarde pas parce qu'elle veut pas trop déranger le monde. » Par contre, si c'était mon père et ma mère, eux iraient le voir, serrer la main, autographe. On peut se prendre une photo avec toi. On peut se aller en vacances dans le sud ensemble. Hey, chummy, chummy. Ça, c'est plus mes parents. D'accord? Mais Huram-Abi était un homme ordinaire. C'est pas Joseph. C'est pas Noé. C'est pas Pierre. C'est pas Paul. C'est Huram-Abi. Je me disais, ah, peut-être qu'en fouillant sur ce que son nom signifie, je peux trouver une richesse, un trésor, quelque chose que je vais pouvoir prêcher à l'église. Et là, j'étudie son nom et Huram-Abi, ça veut dire « Huram est mon père ». OK, donc c'est pas rien de très spectaculaire non plus. Mais ce gars-là, bien qu'il était bien simple, il a eu un impact vraiment spécial, unique. Il avait des dons uniques. Et sa contribution, il a contribué à bâtir le temple de l'Éternel comme personne d'autre n'aurait pu le faire à cause de ses dons et à cause de ses talents. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, peut-être que tu te sens une personne bien ordinaire, hein, bien normale. T'es pas une grande vedette. T'es pas la personne que tout le monde connaît son nom. T'es peut-être pas la personne que tout le monde dit « Ah, wow, ce gars-là est tellement beau, il est tellement wow, aïe, aïe. » Non, peut-être que t'es juste ordinaire, quelqu'un de... comme moi, normal, tu fais ta vie, tu fais tes affaires. Mais j'aimerais te dire que Dieu se sert toujours de personnes ordinaires pour bâtir son royaume. Dieu ne cherche pas les grandes vedettes. Dieu ne cherche pas les gens qui flashent. Dieu cherche des gens qui ont un cœur de serviteur. Dieu cherche des gens qui ont un cœur humble. Dieu cherche des gens qui sont tout simples, bien normaux, mais qui veulent servir Dieu. Es-tu un Huram-Abi ce matin? Es-tu cette personne qui est tout simple, mais qui peut avoir un impact pour le royaume de Dieu? Il y a un texte qui dit ceci dans 2 Corinthiens 4, verset 7. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Et nous sommes ces vases de terre. » Bien simple, bien ordinaire, et nous portons un trésor. Nous portons le message de la vie, le message de Jésus, le message de l'Évangile qui, lui, a une valeur incroyable. Est-ce que je peux entendre un quelque chose? Non, j'ai dit un quelque chose, c'est vrai. Il y a plusieurs années, j'ai fait quelques voyages à Haïti, voyages humanitaires, missionnaires, tout ça. Et à un moment donné, c'était moi le responsable, et je devais traîner sur moi beaucoup d'argent en cash, OK? Et je sais pas si tu as déjà vécu ça dans ta vie, mais j'avais une ceinture en dessous de mes vêtements, OK? Avec des littéralement plusieurs milliers de dollars, OK? Plusieurs, je dirais pas le chiffre exact là. Alors, je l'ai plus cette ceinture là en passant, venez pas m'attaquer à la fin de la réunion. Hein, j'ai rien dans les poches. Et c'est assez spécial de vivre cet événement là. Hein, t'es responsable d'un groupe, tu traverses les douanes, et puis là, t'as de l'argent tapé sur toi. T'sais, un peu comme un genre de trafiquant de drogue ou je sais pas quoi. Mais l'argent allait servir pour donner à des missionnaires, à des gens là-bas. Et des fois, les transferts, c'était compliqué avec certaines personnes. Donc, c'était mieux de traîner l'argent en cash, d'accord? Et des fois, comme chrétien, on se sent un peu comme ça. On est tout simple, mais on tient dans nos mains un trésor incroyable d'une richesse infinie. Qui est le message de l'Évangile, qui est d'une valeur incroyable. Et on tient autour de nous, il est tapé sur notre corps parce qu'on veut le donner et on veut le répandre aux gens qui nous entourent. On est bien simple, bien ordinaire, mais on porte un message de valeur et on porte un message qui est puissant. Donc, Huram-Abi, c'était un gars bien ordinaire, mais c'était aussi quelqu'un qui a développé ses dons et ses talents. Moi, ce qui me touche là-dedans, ce que je trouve spécial, c'est que ce gars-là, dans tout le royaume d'Israël, Salomon avait personne de talent qui égale à ce gars-là. Dans tout son royaume, il n'y avait personne qui était capable de faire ce que Hurammabi était capable de faire. Il a dû aller chez le roi de Tyr pour trouver quelqu'un à l'extérieur de son royaume qui avait des dons et des talents particuliers pour mener à bien la construction du temple. Et moi, ça me touche parce que sûrement que Hurammabi n'est pas né avec tous ces talents-là d'un coup. Hein, je pense pas qu'il est né, puis paf, là, c'est un artisan de bois et de bronze qui savait teindre du cramoisi et du bleu et qui était capable de gérer un chantier de cette ampleur-là. Il est pas né comme ça. Sûrement qu'il avait des dons, des talents, sûrement qu'il avait un intérêt, une passion, mais la vérité, c'est qu'il a dû développer ces dons-là pour un jour les utiliser pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas quels sont tes dons ce matin. Je ne sais pas quels sont tes talents ce matin. Mais en tant que croyant, nous sommes appelés à prendre ce que Dieu nous a donné. Notre unicité, nos dons, ce que nous avons personnellement, même si ça a l'air de pas grand-chose pour toi, prends ce que tu as et développe-le. Prends ce que tu as et fais quelque chose avec. Apporte-les au plus loin que tu peux l'apporter. Suis un cours, prends une formation, lis des livres, trouve des gens qui ont ces dons-là, qui sont plus avancés que toi dans la vie et inspire-toi de ces personnes-là. Ce gars-là, je vous garantis, Hurammabi, il a dû développer ses dons et ses talents afin qu'un jour il soit appelé à accomplir une tâche comme ça. Et je t'invite à faire la même chose dans ta vie. Je t'invite à faire la même chose. Il y a dans le domaine des affaires, si on veut, où il y a ce qui s'appelle la règle des 10 000 heures. Et je vais vous lire une courte citation là-dessus. Inspiré par les travaux du professeur Erickson, le journaliste canadien Malcolm Gladwell introduit dans son ouvrage à succès Les Prodiges, paru en 2008, la maintenant populaire règle des 10 000 heures. Selon ce principe, 10 000 heures de pratique délibérée seraient nécessaires pour parvenir à un statut d'expert. Et la règle des 10 000 heures, elle est vraiment simple. C'est que tu as une passion, tu as quelque chose que tu aimes. Et si tu veux devenir un expert dans ce domaine-là, mets 10 000 heures. 10 000 heures. Il me semble que c'est beaucoup d'heures. Hein? Il me semble que c'est beaucoup d'heures. Quand on regarde les athlètes de haut niveau aux Jeux olympiques, ils ont mis au moins 10 000 heures. Quand on regarde les musiciens professionnels à l'Orchestre symphonique de Montréal, ils ont mis au moins 10 000 heures. Quand tu regardes Hurammabi, avec les spécificités, les capacités qu'il avait, il a mis au moins 10 000 heures. Pourquoi ne pas aller au bout de nos compétences? Pourquoi ne pas développer nos dons, nos talents plus loin pour Dieu? Hein, pourquoi se contenter de juste faire ce qu'on peut quand on peut faire mieux pour le Seigneur? Et moi, je vous invite aujourd'hui à avoir cet intérêt, ce goût, ce désir de vous développer, peu importe c'est quoi votre domaine, votre champ d'expertise, de vous développer et de devenir de plus en plus utile et efficace pour Dieu avec vos dons et vos talents. Êtes-vous là aujourd'hui? Par exemple, tu t'impliques auprès des enfants à NV Junior, pourquoi ne pas suivre un cours à l'ITF qui parle de tout cela, de lire un livre sur comment transmettre la foi aux enfants, d'étudier la pédagogie, de faire des recherches sur des activités éducatives pour transmettre mieux la foi aux enfants. Tu es un musicien, un chanteur, hein, de pratiquer, de t'inspirer, de suivre un cours, de lire un livre. Tu es un entrepreneur, de développer ton entreprise, de participer à des séminaires de formation dans ton domaine, de lire, de mettre en place les meilleures pratiques de management, de comptabilité pour ton entreprise. Tu es quelqu'un qui a à cœur de prier pour les autres. Consacre-toi à la prière. Passe des heures avec Jésus. Tu as à cœur les missions et les œuvres de générosité. Ça brûle en toi de servir ton prochain et de prendre soin des gens qui souffrent, des gens qui sont autour de toi, qui ont des difficultés. Alors pourquoi pas participer à une mission avec Nouvelle Vie sur un territoire autochtone ou outre-mer? Pourquoi pas participer à une distribution alimentaire? Pourquoi pas mettre sur pied un projet de générosité et inclure des gens de ta gang, des gens de l'Église pour le faire? De faire une levée de fonds pour le royaume? T'as à cœur d'encourager les autres. Pourquoi ne pas devenir un animateur de groupe? Quelqu'un qui va prendre soin des gens. L'idée ce matin, c'est que peu importe c'est quoi tes dons, tes talents, développe-les au maximum pour servir Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Oh, c'est un gars ordinaire. Il a développé ses dons, ses talents. Il a utilisé ses dons et talents pour contribuer à bâtir la maison de Dieu. Ce que Dieu t'a donné, mets-les en action pour bâtir la maison de Dieu, pour bâtir le royaume de Dieu. Mets tes dons et tes talents au service de Dieu, de l'Église, de ton prochain, de tes voisins, de ta communauté. Prends ce que tu as pour servir le Seigneur. Prends ce que tu as pour honorer Dieu. Est-ce que c'est votre désir ce matin? De prendre ce que vous avez, peu importe c'est quoi. Nous sommes tous uniques. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des dons et des capacités différentes. L'idée n'est pas de se dire, ah, mais moi, je suis pas bon, ou moi, j'ai pas ci, ou moi, j'ai pas ça. Regarde à ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Ne regarde pas tes impossibilités. Regarde à ce que tu as. Et prie, Seigneur, comment je peux mettre en pratique ou comment je peux prendre ce que j'ai et l'utiliser pour ta gloire. C'est ça mon désir. C'est ça notre cœur. C'est ça notre cœur pour chacun d'entre nous, de prendre ce que nous avons pour servir Dieu. Lorsque j'étais pasteur d'adolescent à l'église Nouvelle Vie, j'ai vu toutes sortes d'ados dans mon groupe. Okay? Des ados de familles chrétiennes, des ados qui venaient de familles non chrétiennes, des gens qui... On a même déjà géré un jeune qui avait un gun, okay, qui était dans les gangs de rue. On l'a pas laissé venir avec un gun plus d'une fois, là, juste pour vous rassurer. Là. Et il y avait aussi dans notre groupe un jeune extrêmement calme, extrêmement discret. Vous savez, le genre de personne qu'on remarque pas vraiment dans un groupe. Hein, vous en connaissez, peut-être que vous êtes cette personne-là. On vous remarque pas vraiment, vous êtes discret, effacé. Lui, il était comme ça, discret, effacé, timide, bien simple. Il parlait peu, hein, il parlait pas beaucoup. Et ce jeune homme-là a développé un amour pour Dieu, a développé un cœur pour Dieu. Et il a commencé à se trouver des passions dans la vie. Une de ses passions, c'était la photographie. Donc, il a suivi une formation en photographie, il s'est lancé comme photographe. Il a appris aussi à faire des vidéos, à devenir vidéographe également. Et aujourd'hui, cette personne-là que je vous parle, ce jeune homme-là que je vous parle, il travaille à l'église Nouvelle Vie Longueuil à temps plein. Il fait des vidéos. Tout ce que vous voyez, la plupart des vidéos que vous voyez, il est là. Vous le voyez pas, mais il est là derrière la caméra, en train de filmer. Et ses dons et ses talents sont utiles, absolument utiles pour la communication de l'amour et de la grâce et du message de Jésus partout dans le monde. Amen. Qui que tu sois, tu as un don, tu as un talent, développe-le et mets-le au service du Seigneur comme ce jeune homme-là a fait. Je l'ai vu d'ailleurs cette semaine et je l'ai félicité. Et j'ai pris un temps pour discuter avec lui parce que ça m'inspire. On n'a pas juste besoin de pasteurs. Et oui, merci Seigneur pour les pasteurs. Mais on a besoin d'une multitude de dons pour que le royaume de Dieu avance. Une multitude de capacités. Une multitude de personnes qui unissent leurs forces et leurs cœurs ensemble pour que l'Église avance. Ce matin, je vais lire un texte en terminant et je vais le développer un peu dans 1 Corinthiens 12. Ce texte nous parle que nous sommes le corps de Christ. Et je veux qu'on réfléchisse à cette notion-là ce matin, avant d'aller dans la prière, avant de terminer ce message. Et, je veux qu'on réfléchisse à la notion du corps de Christ. Je trouve que c'est une des images extrêmement fortes dans la Bible. Vous savez, nous sommes la famille de Dieu. Vous avez déjà entendu ça? On a des frères, des sœurs, on a la famille de Dieu. Et la famille, c'est des liens forts. Mais quand on dit le corps de Christ, ça, c'est des liens encore plus forts que des liens de famille. Hein? La main qui est reliée au bras, qui est reliée à l'épaule, qui est reliée au corps, on est tous les membres les uns des autres, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort. Et je veux vous lire quelques versets ce matin, puis qu'on réfléchisse ensemble à comment on peut mieux incarner justement ce corps de Christ ici, à Drummondville. 1 Corinthiens 12:12 nous dit ceci. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et le texte nous dit ici que nous sommes unis malgré nos différences. Et ce matin, c'est ce qui est beau de l'Église. On vient tous d'endroits différents géographiques. On vient tous de familles différentes. Certains d'entre nous, on a des nationalités différentes. On a des portefeuilles différents, des éducations différentes, des mentalités différentes. Mais ce qui nous unit, c'est que nous sommes croyants. Nous croyons en Jésus-Christ. Et nous formons un corps. Un corps solidement uni par le lien de l'amour, comme on va le voir dans un instant. Et ça, c'est beau et c'est magnifique et c'est ça le miracle de l'Église. Nous sommes un corps. Verset 14. « Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, « Parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas moins du corps pour cela? » Et si l'oreille disait, « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? » Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? On ne parle pas de l'ouïe, là, on parle de l'ouïe, OK? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Et ici, on voit que nous sommes complémentaires. Nous sommes un corps, mais nous sommes complémentaires. On s'entraide les uns les autres, on est différents les uns les autres. Imaginez un corps qui serait tout œil. Moi, j'ai de la bonne imagination, là. Imaginez un corps qui fait tout en œil, plein d'yeux collés les uns sur les autres. Ça ferait plus film d'horreur qu'église, OK? Ou si le corps était tout, oui, tout oreille. Imaginez plein d'oreilles collées. Non. C'est correct qu'on soit différent. C'est correct qu'on soit unique. Dieu l'a voulu ainsi. Puis quand chacun prend sa place dans le corps, c'est là où on avance. C'est là où l'Église est propulsée. C'est là où l'Église peut s'emparer de sa destinée. Il faut que chacun prenne sa place dans le corps. Il faut arrêter de se comparer, de dire « Ah, j'ai pas ce qu'il faut, je suis pas comme lui, je suis pas comme elle. » Tu es comme toi. Tu es comme Dieu a voulu que tu sois. Puis tu as une place ici. Tu as une place dans le corps de Christ. Le verset 18, ça dit « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » C'est Dieu qui a déterminé qui tu es, ta personnalité, tes dons, tes talents. Dieu t'a choisi, Dieu t'a créé, tu es précieux. Il n'y a pas un membre dans un corps qui est plus précieux que l'autre. Tous les membres sont utiles et importants. Et tu as ta place dans le corps de Christ. Verset 19, ça dit, « Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? » Maintenant donc, il y a plusieurs membres, un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi. » Ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de toi. » Nous avons besoin les uns des autres. Dis à la personne à ta droite, « J'ai besoin de toi. » Ce qui est drôle, c'est que vous jasez encore, fait que vous avez dit d'autres choses, là. Vous n'avez pas juste dit « J'ai besoin de toi hein? ». C'est correct. Ça prend plein de genres de personnes dans une église. Avez-vous déjà été privé d'un membre de votre corps? Ça fait une drôle de question, là, mais... Par exemple, tu dors la nuit sur un matelas qui est dur, et tu es couché sur le côté, et là, tu te réveilles, et là, ton bras est complètement engourdi. À combien ont déjà vécu ce malaise profond? Ton bras est engourdi, puis là, ah! Là, tu n'es pas bien, tu te réveilles la nuit, puis là, tu es de même. Là, tu te réveilles ta conjointe parce que tu veux qu'elle sache que tu souffres vraiment. Hey! Mon bras est engourdi! Hein? Là, t'as pas usage de ton bras pendant quelques secondes. Là, t'es de même dans ton lit, là, la nuit. Là, t'as essayé que le sang revienne dans ton bras. C'est inconfortable. À un moment donné, je sais pas quelle est la cause, mais j'ai déjà comme perdu un peu la vision pendant un instant. Là, ils vont me dire, oh boy, c'est quand même. Je voyais comme, devant mes yeux, c'était comme flou, comme si ça picotait de même. Est-ce que je suis seul qui a déjà vécu ça, juste pour voir? Ah, on va former un groupe, on est 4-5. Donc, on formera un groupe cette semaine, on se rassemble, mercredi soir, 17h. Les gens qui perdent la vision des fois. Mais c'est paniquant! C'est comme, aïe, mais qu'est-ce qui se passe, là? Puis là, je vois pas ma main. Hey, là, encore une fois, tu déranges ta conjointe. Hey, viens ici. Je vois pas ma main. Et là, je te vois pas, je te regarde, mais je te vois pas. Là, c'était paniquant les fois où ça m'est arrivé. Et c'est là qu'on se rend compte que chaque membre de notre corps a son utilité, a sa place, qu'on a besoin comme Église des uns des autres. Si tu viens ici à l'Église, que tu t'assois à l'Église, que tu es un chrétien et que tu t'assois, tu écoutes les messages, mais que tu participes pas encore à la vie du corps de Christ, à la vie de l'Église, le corps est incomplet. On a besoin de toi. Il nous manque toi dans le corps. On a besoin que tu embarques dans l'Église, que tu fasses de cette Église ton Église. Et là, je comprends, si tu es nouveau ici, ben prends le temps d'arriver, on te force pas, on te stresse pas. Et des gens aussi, vous savez pas trop à quelle Église vous allez vous joindre, prenez le temps. Mais si tu es ici, c'est ton Église, tu es là, tu écoutes de semaine en semaine, tu ris de mes jokes en plus, mais tu n'es pas encore impliqué. Tu n'es pas encore engagé envers les gens qui t'entourent. Le corps manque de toi. On a besoin de toi. Tu es un membre de ce corps. Et on a besoin que tu prennes ta place dans cette église, que tu prennes ta place dans ton église. Pour qu'une réunion comme ça prenne place, ça prend une multitude de personnes qui unissent leur cœur et leur force et leur talent. Et j'en ai mis juste quelques-uns vraiment rapidement, mais il y a de l'accueil. Il y a un kiosque d'infos. Il y a un kiosque où on récupère les dons. Il y a l'espace bienvenu. Il y a des animateurs de groupe la semaine. Il y a un moment de prière ici le dimanche matin. Il y a de la technique de son, de la projection, photographe, médias sociaux, chanteurs, musiciens, placeurs, sécurité, soins d'urgence, des actions sociales. On a vu ce matin que c'est le début de aussi du café qui est servi les dimanches matins. Wouh, 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 du café! NV Junior qui est là. Les bénévoles pour les ados, éventuellement pour les jeunes adultes, et je pourrais continuer longtemps à l'entretien ménager, etc. On a besoin de toute une équipe qui s'active pour que le message de l'Évangile soit communiqué efficacement. Et on a besoin de toi. On a besoin de toi. Je suis heureux ce matin aussi d'avoir des gens qui prennent leur place dans l'Église. Je suis content de pouvoir compter sur Richard Souci. Grâce à lui, je n'ai plus aucun souci les dimanches matins. Il est le responsable de la sécurité. Il est à sa place. Je suis content que Richard n'ait pas nécessairement à la place de Will en train de chanter. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Peut-être qu'il y a une voix superbe, je ne sais pas. Mais il est à sa place. Je suis content de pouvoir compter sur Rita comme animatrice de groupe. Je suis en paix. Je sais que lorsque Rita anime un groupe, les gens sont entre de bonnes mains. Je suis confiant quand elle est au kiosque d'informations, tout ça, je sais que les gens vont être bien traités, bien servis. Je suis heureux d'avoir Christian à l'entretien ménager de notre bâtiment. Je sais que notre bâtiment va être propre. Je sais qu'il va prendre soin de notre bâtiment. C'est un expert en la matière. Cette semaine, je suis allé le voir pour demander des conseils pour nettoyer mes fenêtres à la maison. Tu utilises quoi comme produit, etc. Il connaît son affaire. Je sais pas s'il y a 10 000 heures là-dedans, mais on dirait que oui. Tu peux prendre ta place dans cette église. Peu importe tes dons, tes talents. Même si tu penses que tu n'as pas de dons, pas de talent, tu en as. Tu peux faire quelque chose. On va te trouver une place. Tu es le bienvenu. Mais reste pas juste comme spectateur. Reste pas comme spectateur. Le corps de Christ a besoin de toi. Et le verset 12 nous dit, verset 25 plutôt nous dit, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Tu as une place dans cette église. Je vais inviter les musiciens à revenir. On va terminer dans un instant. Vous avez vu ce matin, sur les chaises, on a mis des feuilles. Une feuille qui dit « Rejoins l'équipe ». Et je vais la regarder rapidement avec vous ce matin. Vous savez, la raison pour laquelle je prêche là-dessus, c'est que tout ce qu'on fait, c'est pour annoncer Jésus-Christ. Tout ce qu'on fait, c'est pour que le plus grand nombre de personnes possibles puissent découvrir le message libérateur de l'Évangile. Tout ce qu'on fait, c'est pour que des disciples soient formés. Et ce matin, j'aimerais te dire, on a besoin que chacun prenne sa place. Une des raisons pourquoi je vous parle de tout ça ce matin, c'est que, regardez autour de vous, il n'y a pas beaucoup de chaises vides. Il y a quelques-unes, mais il n'y a pas énormément de chaises vides. Et il est possible que cet automne, comme Église, qu'on n'ait pas le choix de faire deux réunions le dimanche afin de rejoindre le double de personnes ici à Drummondville. Si on veut faire ça, pas applaudir. Ce projet n'est pas réalisable à moins qu'on double nos équipes. Vous me suivez? Si on avait besoin de 3 placeurs, maintenant on a besoin de 6 par dimanche. Puis si on veut pas que ça implique à chaque semaine, on a besoin d'au moins 12 ou plus. Me suivez-vous? Et c'est vrai pour tout le département de l'Église. On a besoin de doubler la majorité de nos équipes et d'avoir des bénévoles supplémentaires à NV Junior aussi. Alors ce matin, mon appel, mon invitation pour toi, ça va être de prier, de réfléchir, de dire « Seigneur, où est ma place dans cette Église? » Il y a des gens, vous êtes déjà bénévoles, déjà impliqués, et je vous remercie de votre participation. Merci d'être fidèles, merci qu'on peut compter sur vous, merci pour votre sourire, merci pour votre disponibilité. Et les gens que vous n'êtes pas encore impliqués, je fais appel à vous ce matin. Vous n'êtes pas obligés, hein? Il n'y a pas de pression sur vous. Mais j'espère que votre cœur, il y a quelque chose qui résonne dans votre cœur aujourd'hui, puis qui se dit, mais moi j'aimerais ça contribuer, j'aimerais ça servir, j'aimerais ça pouvoir participer de façon active à la vie de l'Église. Et les différentes places ici, bon, il y a accueil, kiosque d'information, espace bienvenue et accueil des nouveaux, animateurs de groupe, techniciens de son, projection, photographes, médias sociaux, chanteurs, musiciens, placeurs, sécurité, soins d'urgence, action sociale, le service du café les dimanches, auprès des enfants et les différents groupes d'âge qui sont là ou auprès des jeunes. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et ce matin, je prie que Dieu touche nos cœurs. Je vous demande aussi une certaine patience. Parce que si vous remplissez ça ce matin, ça ne veut pas dire que dimanche prochain, tout est réglé, vous êtes impliqués. On pense qu'il va y avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes ce matin qui vont remplir le formulaire. Donc, soyez patients, remplissez-le avec un cœur patient, le temps qu'on puisse bien s'organiser et bien communiquer avec chacun d'entre vous. Et dans les prochaines semaines, ce qu'on veut faire, c'est que le responsable de chaque département va communiquer avec vous éventuellement. Va vous inviter à vous joindre à l'équipe, vous rencontrer et pouvoir vous former aussi selon les ministères. Et ça va prendre un certain temps. On se donne quelques semaines, quelques mois cet automne pour se réorganiser afin de doubler nos équipes. Ce qui n'est pas rien, vous conviendrez, de doubler nos équipes. Donc, on vous demande une patience, un ajustement à cause des ajustements. Et tous ceux qui sont déjà impliqués, tous ceux qui sont bénévoles en ce moment, ou vous êtes un chef d'un département de l'Église, on a besoin de vous dans les prochaines semaines afin d'accueillir les nouveaux bénévoles, afin de prendre le temps avec eux. On n'est pas juste là pour faire une business, on est là pour développer des liens ensemble, des amitiés ensemble. Et je compte sur vous pour accueillir, intégrer ceux qui arrivent, les coacher, les former, prendre le temps avec eux. Et bien sûr, on va avoir des rencontres pour... organiser plus en profondeur tous les détails. Mais je vous rappelle que le but de tout ça, c'est de rejoindre Drummondville et toutes les villes et villages autour pour Jésus. Il n'y a pas d'autre... on peut applaudir. On n'est pas une église qui se satisfait ou qui se plaît avec ce qu'on a en ce moment. On a une Église qui a soif et qui a faim pour voir plus de vies transformées par Jésus. Une Église qui a soif et qui a faim pour voir plus de personnes devenir disciples de Jésus. Et pour ça, on a besoin de toi. On a besoin de vous. On a besoin que chacun d'entre nous, on prenne notre place dans cette Église, dans ce corps. Vous allez voir sur le formulaire, la première question, c'est êtes-vous membre de l'Église? À l'Église Nouvelle Vie, une des politiques sur tous les sites, c'est que pour s'impliquer, on doit être membre de l'Église. Et je dis quelques mots là-dessus ce matin, brièvement. Mais en fait, quelqu'un qui est membre d'une église, c'est quelqu'un qui dit « Cette église-là, c'est mon église. C'est ma famille. Je vais être présent sur une base régulière. Je vais travailler à la paix de mon église. Je vais servir mon église. Je vais prier pour mon église. Je vais participer financièrement à mon église. Je vais honorer Dieu par mon témoignage chrétien. » Et ce matin, si tu es ici et que tu n'es pas encore membre, sache qu'il y a un processus pour devenir membre avant de pouvoir t'impliquer. Et il va y avoir le 5 octobre une rencontre d'infomembres sur Zoom où tu vas pouvoir participer. Et par la suite, il va y avoir un formulaire à remplir. Il y a certaines démarches que tu dois faire. Et après ça, tu vas rencontrer un pasteur et pour que tu puisses devenir membre et te joindre officiellement à l'équipe et t'impliquer. Donc, c'est un processus. Et sachez que ce n'est pas obligatoire pour personne de devenir membre ici à l'Église. Tu peux venir à l'Église et louer Jésus, participer au groupe, recevoir tous les services, participer à la vie d'Église, la communion fraternelle. Tu vas toujours être le bienvenu. C'est ouvert à tous, bien sûr. Mais pour ceux qui s'impliquent, pour ceux qui servent dans l'Église, il faut passer par le processus de membre. Donc, même si tu es impliqué en ce moment et que tu n'es pas membre, il faut aussi que tu fasses le processus. D'ailleurs, il faut le faire là. Il faut le faire dans les prochaines semaines afin que tu puisses continuer à faire partie de nos équipes de service partout dans l'Église. Donc, en terminant ce matin, nous avons vu un homme qu'on ne connaissait pas, mais maintenant on le connaît, Huram Abi, un gars ordinaire qui a développé ses dons, ses talents et qui les a utilisés pour contribuer à bâtir la maison de l'Éternel. On a vu également que nous sommes le corps de Christ, unis malgré nos différences, complémentaires, que Dieu a une place pour toi, que nous avons besoin les uns des autres et que c'est l'amour sincère et véritable qui nous gardera unis. Ce matin, en terminant, les musiciens vont refaire ce chant qu'on a chanté tantôt, « Te servir ». Et pendant ce moment où ils vont chanter, ils vont nous conduire dans un moment de louange, je t'invite à prier. Je t'invite aussi à prendre le formulaire, puis à prier, puis à dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? » Peut-être qu'il n'y a pas de coche qui correspond à ton implication parce que tu as autre chose à cœur. Et hey, on est ouvert à tout ça. Peut-être que ton service va être aussi à l'extérieur de l'Église, auprès de ta communauté, auprès de ton voisinage, des gens de ton travail, peu importe. Mais ce matin, je t'invite à considérer, répondre à l'appel de Dieu et à dire « Je vais te servir, Seigneur. » Je vais joindre la famille Nouvelle Vie, je vais devenir membre, je vais m'impliquer et je vais contribuer à l'avancement de ton royaume ici à Drummondville. Surtout avec les deux réunions qui vont éventuellement arriver. Seigneur, je veux être participant dans ce que tu fais. Je veux le faire avec joie, je veux le faire avec le sourire, je veux le faire avec un cœur humble, avec une attitude qui te glorifie et qui t'honore. Alors ce matin, on peut rester assis quelques instants et on va écouter ce chant et prenez la feuille dans vos mains, un instant et commencez à prier, peut-être lire la feuille, commencez à prier. Si vous êtes déjà prêt à la remplir, vous pouvez déjà la remplir. S'il manque de crayons, il y a des placeurs qui vont se promener dans les allées avec des crayons qui vont, vous avez juste à lever votre main pour qu'ils vous transmettent un crayon. Mais c'est un moment spirituel qui prend place en ce moment. Je vous demande de ne pas partir tout de suite. On va terminer ensemble avec un mot de prière à la fin. Mais prenez le temps de prier, de lire la feuille, de la remplir si vous êtes prêt. Et si jamais vous n'êtes pas prêt ce matin à la remplir, vous pouvez partir avec la feuille et nous la remettre dans les semaines qui viennent. Il n'y a aucun souci. Donc, écoutons ce chant ensemble ce matin et approchons-nous de Dieu. Laissons le Seigneur parler à nos cœurs.